بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cet audio, nous allons à présent voir une nouvelle partie que je vais démarrer, inshallah, qui va être poursuivie dans les prochains audios, inshallah ta'ala. C'est concernant ceux qui n'annulent pas le jeûne. Ou plutôt ce qu'on pense que le jeûne est annulé par rapport à ces choses, mais qui n'annule pas le jeûne. Donc je vais citer quelques points de manière assez succincte. Et pendant les prochains audios, inshallah, d'autres points seront abordés, inshallah ta'ala. Alors parmi ces premières choses, c'est le fait de se réveiller en état d'impureté majeure. Donc le fait que le musulman, la musulmane se réveille en état d'impureté majeure. Donc ceci dans deux cas, suite au sommeil, donc la personne s'endort, se réveille et se trouve à son réveil effectivement dans un état d'impureté majeure. Effectivement son jeûne est quand même valable, donc elle se lave, elle fait le rousl et son jeûne est quand même valable. Également la personne qui se réveille donc au matin après donc avoir eu des rapports conjugaux. Donc effectivement, et qu'elle arrive à al-fajr en état de jeûne bas. Et ici, donc effectivement, son jeûne est quand même valable, la personne fait son rousl, prie le fajr, et alhamdoulilah, donc son jeûne est quand même valable. Et ici, le hadith qui nous a rapporté, qui appuie cette affirmation, c'est le hadith de Aïcha et de Umi Salama, rapporté par le Bukhari, plutôt dans le recueil de le Bukhari, rapporté par Aïcha et Umi Salama, qui nous dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Donc Umi Salama et Aïcha radiallahu anha, donc les deux épouses du prophète sallam, disent que le prophète sallam, donc il se réveillait au fajr en état justement d'impureté majeure suite à des rapports conjugaux, et il se lavait et il jeûnait. Donc ça c'est concernant justement le fait de se réveiller en état de jeûne bas. Ensuite, le deuxième point qu'on va voir à présent, c'est le fait d'embrasser son conjoint ou de l'entrelacer. Donc le fait de le serrer dans ses bras, d'entrelacer, etc. Donc ici, les savants précisent que ceci est possible, à condition à nouveau de ne pas tomber dans, de ne pas provoquer donc, un état de jeûne bas, de ne pas tomber dans l'état d'impureté majeure. Alors ici, en plus de cette condition, l'imam Malik, lui, de manière générale, il déconseille. Il déconseille. On a également le compagnon radhiallahu anhu ibn Abbas, qui lui différencie la personne âgée de la personne jeune, en se basant sur un hadith, dans lequel une personne âgée est venue voir le prince sallam, lui demandant s'il pouvait justement embrasser son épouse, et il lui a accepté, et il a refusé à un jeune. Un jeune, il lui a refusé. Donc ici, Ibn Abbas se base effectivement sur ce hadith. Ibn Hazm répond à ces deux avis en expliquant que le prophète sallam, lors de sa mort, Aïcha radiallahu anha était âgée de 18 ans. Donc ce fait prouve effectivement qu'il est permis au conjoint, même quand il est jeune, de pouvoir embrasser son époux, son conjoint ou sa conjointe en état de jeûne. Il répond également au fait que c'est déconseillé à l'imam Malik. Donc Ibn Hazm répond aux deux avis précédents. Donc l'imam Malik il considère que c'était déconseillé. Ibn Abbas, dans son avis, il considère effectivement une distinction entre la personne âgée et la personne jeune. Et Ibn Hazm explique effectivement Aïcha radiallahu anha, qui était âgée de 18 ans lors de la mort du prophète sallam. Donc elle explique dans le hadith qu'on va expliquer là maintenant effectivement qu'elle a embrassé le prophète sallam et que le prophète sallam l'a embrassé malgré son jeune âge. Et ici effectivement, donc c'est l'avis le plus vraisemblable ici, c'est l'avis de l'imam Shafi'i qui fait la distinction ici entre celui qui se maîtrise et celui qui ne se maîtrise pas, et ceci conformément au hadith rapport de Aïcha radhiyallahu anha qui nous dit qu'un nabi sallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'im وكان أملاككم وكان أملاككم لأربه. Donc elle nous dit, le prophète sallam, donc dans ce hadith rapporté par le Bukhari, dans l'authentique de le Bukhari rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, elle nous dit le prophète sallam embrasser son épouse et les entrelacer, embrasser et entrelacer donc ses épouses, alors qu'il était en état de jeûne et il était le plus à même à maîtriser ses pulsions. Et donc ici, c'est ce qui a amené même Shafi'i à considérer effectivement que c'est celui qui maîtrise ses pulsions qui a nié celui qui ne maîtrise pas ses pulsions à qui il est déconseillé d'embrasser son épouse. Également, Omar ibn Khattab, dans un hadith, nous explique qu'effectivement le fait d'embrasser est équivalent au madmada. Donc le madmada, donc le fait de le gargouillement dans la bouche avec de l'eau, quand on fait le wudu. Donc ici, le hadith dans lequel Omar ibn Khattab pose la question en disant « Ya Rasulallah, j'ai commis quelque chose de grave, et donc j'ai embrassé mon épouse. » Et il répondit à Omar ibn Khattab en lui disant, vois-tu le madmada, quand tu mets le madmada dans la bouche, effectivement, il dit effectivement, donc Omar ibn Khattab répond, effectivement, ça ne gêne pas. Et donc le Prophète lui confirme effectivement en quoi ça gêne, donc ça ne gêne pas du tout, donc par rapport au jeûne. Donc au même titre que ça ne gêne pas le gargouillement, le fait d'embrasser, effectivement, ne gêne pas non plus. Donc voilà concernant le fait d'embrasser son épouse et d'entrelacer son conjoint de manière générale. Le point suivant. Le fait de se laver et renverser de l'eau sur sa tête. Donc ici, effectivement, il est autorisé de se laver et de se rincer la tête. Et ceci conformément au hadith dans lequel le prophète sallam, donc authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh, dans lequel il nous dit donc anna an-nabi sallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Le hadith qu'on a cité tout à l'heure précédemment, le hadith de Aïcha radhiallahu anha. Donc, il nous explique effectivement que le prophète sallam, donc il lui est arrivé d'être en état de janabah à al-fajr. Donc il se lavait alors que effectivement le fajr était arrivé et il jeûnait sans problème. Dans un autre hadith, on a effectivement certains compagnons qui rapportent qu'ils ont vu le prophète sallam, yani la qad ra'aytu rasulallah sallam bil araj, donc c'est une contrée. يصب على رأسه الماء وهو صائم من وهو صائم من العطش أو من الحر. Donc ici, on nous explique effectivement le prophète sallam, alors qu'il faisait très très chaud et qu'il avait soif, il a renversé de la tête de l'eau à foin sur sa tête. Donc voilà concernant le fait de renverser de l'eau sur sa tête et de se laver. L'autre point, c'est le madmada ou l'istinshaq, le fait de ga le gargouillement dans la bouche et le fait d'inspirer de l'eau dans son nez, comme ce qu'on en fait pour le wudu. Et effectivement, il est permis, et ici, conformément au hadith, donc authentifié par Al-Albani rahmatullah alayh, dans lequel il nous dit, donc dans un long hadith, il nous explique, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Et exagère dans l'istinshaq, dans le fait de mettre de l'eau dans son nez, d'insuffler de l'eau dans son nez, sauf en cas de jeûne. Sauf en cas de jeûne. Et ici, plusieurs précisions dans le fait de faire le gargouillement dans la bouche, le fait de faire le madmada. Effectivement, l'eau qui reste, la petite quantité d'eau qui reste dans la bouche, yani n'annule pas le jeûne. Effectivement, cette petite quantité dont on a du mal à se débarrasser est permise. Et également, pour celui qui avale sans faire exprès, là qui avale une quantité d'eau en faisant le madmada, donc on ne parle pas de la petite quantité dont on a du mal à se débarrasser, mais on parle bien d'une gorgée d'eau. Donc une gorgée d'eau qui passe à la gorge. Effectivement, à ce moment-là, le jeûne n'est pas annulé à condition que ce n'a pas été fait exprès. Et la personne, comme nous dit Cheikh Al-Khayyat Hafidhahullah, la personne, par précaution, jeûnera un jour de rattrapage, mais son jeûne actuel n'est pas annulé. Ensuite, le dernier point, le fait de goûter à la nourriture. Tadawwuq at-ta'am lil-haja. Donc, le fait de goûter à la nourriture par nécessité. Et donc, ici, effectivement, bien souvent, les épouses, ou les mamans, ou les sœurs, ou même des fois les maris qui cuisinent, effectivement, peuvent effectivement goûter, sans avaler, mais juste goûter avec le bout de la langue, la nourriture pour savoir si elle est salée, si elle est sucrée, etc. Et ici, conformément à la parole d'Ibn Abbas, dans lequel il nous dit, La ba'sa an yadhuqa al-khal aw al-shay ma lam yadkhul halqahu wa huwa sa'im. Ma lam yadkhul halqahu wa huwa sa'im. Donc il n'y a pas de mal à goûter, donc le vinaigre ou autre chose, tant que cette chose n'entre pas et ne traverse pas la gorge, alors qu'il est en état de jeûne. Également, Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, Cheikh Ibn Taymiyyah, nous dit وَالذَّوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَكِنْ لَا يُفْطِرُهُ وَأَمَّا لِلْحَاجَةِ فَهُوَ كَالْمَضْمَضَةِ. Donc il nous dit clairement, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, que le fait de goûter de la nourriture est déconseillé lorsque ce n'est pas par nécessité. Mais il n'annule pas le jeûne. Il n'annule pas le jeûne. Quant à la nécessité, lorsque la personne comment dire, goûte la nourriture et annule par nécessité, effectivement, c'est comme le mois de Ramadan. Et ici, une petite précision concernant le fait de goûter. Scientifiquement, c'est prouvé effectivement que la langue permet de, comment dire, de ressentir le goût. Et ici, subhanallah, donc la langue, les différentes parties de la langue ont chacune une distinction par rapport au ressenti. Le bout de la langue, par exemple, concerne le sucré. Les côtés de la langue concernent le salé. L'acidité, c'est plutôt le milieu de la langue. Et le fond de la langue, c'est plutôt l'amertume. Donc ici, Yannine, la langue, à elle toute seule, permet justement d'identifier les goûts et de voir si c'est salé ou sucré, sans devoir nécessairement avaler quelque chose. Donc voilà concernant les différents éléments, concernant les choses qui n'annulent pas le jeûne, de manière très succincte. Vous verrez, Inch'Allah ta'ala, dans les prochains audios, d'autres éléments qui n'annulent pas le jeûne. Donc, barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikoum.